Il y avait deux objectifs scientifiques quasiment indépendants qui avaient au départ un poids égal. C'était un, la recherche d'exoplanètes, donc des planètes hors du système solaire, et deux, l'étude des étoiles, du fonctionnement des étoiles. Donc, d'une manière très pratique, la caméra de Corot comportait deux parties adjacentes, une partie dédiée à la recherche d'exoplanètes, une partie à la physique stellaire. Les exoplanètes sont devenues très importantes par la suite. Donc, on a beaucoup parlé de Corot pour ses découvertes en termes d'exoplanètes. Il ne faut pas oublier c'est qu'il a également été pionnier et fait énormément de découvertes novatrices dans le domaine de la physique des étoiles.
Quand on dit que Corot a permis d'écouter la musique des étoiles, qu'est-ce qu'on veut dire par là ?
Des étoiles, comme vous le savez, sont des boules de gaz. Au centre de ces boules de gaz, il se produit des réactions nucléaires de fusion de l'hydrogène qui produisent leur énergie. Cette énergie qui est formée au cœur des étoiles, elle se transmet vers l'extérieur, ce qui produit la chaleur et la lumière émises par les étoiles, notamment. Et cette transmission du cœur de l'étoile vers la surface, ça ne se fait pas d'une manière très calme, ça se fait au moyen de convection, de turbulence, ça bouillonne. Et tout ce processus fait que quand on observe une étoile de l'extérieur, si on a une très très bonne vue, ce qui était le cas de Corot, on distingue des pulsations de l'étoile. C'est-à-dire que l'étoile, sa surface varie un petit peu, produit des variations de luminosité de manière assez périodique, qui sont révélatrices de ce qui se passe à l'intérieur. Et ça a été très bien observé depuis des décennies sur le Soleil, puisqu'on l'a plus près, on peut l'observer facilement. Et avec Corot, on a étendu cette technique à un très grand nombre d'étoiles de la galaxie. Alors on fait l'analogie avec la musique, parce que ce sont des ondes de compression qui se propagent dans l'air. Et là, c'est un peu pareil, puisque ce sont également des ondes de compression qui se propagent dans l'étoile. Une fois qu'elles sont sorties de l'étoile, elles ne peuvent plus se propager jusqu'à nous, puisque le milieu galactique, je dirais, est vide ou quasiment vide, donc ne peut pas propager le son. En revanche, ça produit des variations de luminosité, puisque l'étoile gonfle et se contracte périodiquement. Et ça, c'est ce que Corot mesure.
Rappelez-nous comment Corot a permis de trouver les planètes extrasolaires.
Alors, le transit, c'est tout simplement une mini-éclipse. Hein. Ça se produit quand la planète passe devant son étoile. Donc, c'est l'une des détections possibles des exoplanètes. Bien entendu, ça ne se produit que dans certains cas, puisqu'il faut que l'étoile et la planète soient alignées à certains moments avec nous pour qu'on puisse observer ce phénomène. Hein. C'est un peu comme les transits ou les éclipses provoquées par Vénus, par exemple, devant le Soleil. Ça ne se produit que de temps en temps, c'est assez rare. Il faut une configuration d'alignement. Donc ça, c'est quelque chose qui avait déjà été observé depuis le sol. Hein. On peut très bien observer des transits depuis le sol avec des observatoires. Il suffit de regarder des étoiles pendant très longtemps pour qu'à un moment donné ou à un autre, sur certaines de ces étoiles, ça se produise. La différence avec Corot, c'est qu'on a étendu ça à un très grand nombre d'étoiles. Ce sont des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'étoiles. Et en plus, qu'on observe pendant des mois en continu. Ce qui n'est pas possible sur Terre, puisque sur Terre, on ne peut observer que de nuit. Parce qu'évidemment, si on ne veut pas rater le moment où la planète va passer devant son étoile, il faut l'observer en continu. Une précision qui est importante, on ne fait pas d'image avec des satellites comme Corot ou Kepler qui cherchent les planètes par transit. On mesure la lumière reçue de l'étoile, c'est tout. Et on détecte les légères baisses de lumière de cette étoile quand la planète passe devant, puisqu'elle cache une petite partie de l'étoile. Mais on ne fait pas d'image, on mesure simplement le niveau de lumière en continu. Et on détecte quand cette lumière baisse, puis remonte.
Corot a permis de confirmer que l'univers pullule d'étoiles qui sont entourées de tas de planètes extrasolaires.
Tout à fait. Avant le lancement de Corot, c'était quand même une grande question. On avait découvert des planètes depuis le sol, mais autour de certaines étoiles, et puis surtout des grosses planètes, parce qu'on ne savait pas encore vraiment détecter les plus petites, qui sont évidemment plus difficiles. Et je me souviens que les prédictions avant le lancement de Corot variait de quelques dizaines à peut-être quelques milliers de planètes qu'on pouvait découvrir avec Corot, ce qui montre qu'on n'avait aucune idée de ce qu'on allait trouver. Et Corot a montré effectivement que quand on regarde beaucoup d'étoiles, on trouve beaucoup de planètes. Et donc on a effectivement découvert que les exoplanètes sont très courantes dans la galaxie.
Corot rappelle le satellite américain Kepler.
Outre-Atlantique notamment, on connaît beaucoup le satellite Kepler américain, qui lui d'ailleurs lui également est en panne, comme Corot. Kepler a observé beaucoup plus d'étoiles et un télescope plus puissant que Corot parce que bon, c'était une gamme de missions plus chère et plus grosse, hein, donc c'est normal. Néanmoins, Corot a été très important, il a été lancé avant Kepler. Il a permis de se rendre compte, comme souvent quand on fait une première, parce que c'était la première fois qu'on faisait ce genre de projet spatial, Il a permis de se rendre compte des difficultés rencontrées et de comment les contourner. Et ça, ça a également bénéficié à Kepler, même si le satellite Kepler n'a pas été construit en s'inspirant de celui de Corot. Les techniques de traitement des données au sol pour arriver à identifier des transits dans les données reçues du satellite, pour ça, Kepler a bénéficié d'expériences de Corot. C'est pour ça qu'on dit souvent que Corot était une mission pionnière, puisqu'elle a été lancée sans qu'on sache ce qu'on allait trouver et les difficultés qu'on allait rencontrer pour traiter les données du satellite. Une fois qu'on a fait une première fois, on sait ce qu'on va découvrir, donc on peut se préparer à l'avance, etc. Corot, c'était la première, c'est Corot qui a suivi les plates.
Le chercheur Olivier Lamarle du CNES, il était joint en France.